savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Les films sont plus harmonieux que la vie à France. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéré, Sophie Torlotin.
Bienvenue dans tous les cinémas du monde. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous.
Cette semaine, on casse le format de l'émission pour deux films formidables. Alors le second, on va recevoir son réalisateur Mariano Linas dans 20 minutes. C'est un film hors norme, hein, 14h. 14h pour suivre les aventures rocambolesques de ces quatre héroïnes à travers l'Amérique latine et l'Europe. Une histoire qui emprunte aux films d'espionnage, aux films d'horreur, à la telenovela, à la comédie musicale, au mélodrame. Voilà, ça s'appelle La Flore. Et on a rendez-vous en deuxième partie d'émission avec l'Argentin Mariano Linas. Et pour commencer cette émission, un autre film qui nous a sidérés par son courage, sa puissance, sa tendresse, parfois, sa cruauté, souvent, sa capacité surtout à transcender un fait, une histoire singulière pour révéler une réalité systémique. Bonjour Yolande Zoberman.
Bonjour.
Votre film, votre documentaire s'appelle M. M comme M le maudit, mais M aussi comme son protagoniste Menahem Lang, qui est issu d'une famille ultra-orthodoxe de Tel Aviv. Il a été violé dès l'âge de 4 ans par un rabbin de sa communauté. On écoute la bande-annonce de M de Yolande Zoberman.
Ihr geht rein die Welt von meinem Ovis durch ein Schaden als von Menachem.
נכנסתי לעולם חרדי ממש ממש כאנוס, אבל אני התחלתי בגיל 20, יצאתי.
In du, mit mir, in er hat gewollt, zurückgefunden die Plätze von den Verbrechen.
Noch die Männer.
Noch die Männer?
Ja.
La bande-annonce de M, votre film, Yolande Zoberman. Alors, c'est votre voix qu'on entend.
Oui.
Et il y a deux langues, en fait, qui s'entendent dans cette bande-annonce, l'hébreu et le yiddish.
Alors, le film est principalement yiddish, presque, je crois, 80-90% yiddish. Moi, je ne parle pas hébreu, mais je parle yiddish.
Et le yiddish, ça a été votre lien, votre point d'accroche, c'est ça, avec le personnage
principal. Oui, c'est... Moi, j'aime beaucoup le yiddish et en même temps, je suis allergique à la nostalgie, donc je sais pas trop quoi faire de mon amour. Et donc, j'en fais des films. J'avais fait il y a longtemps un film qui s'appelait Moi et toi, Abraham. Et là, je vois dans un film d'Amos Gitai un jeune garçon de 20 ans qui parle yiddish couramment et je me dis, mais d'où il sort?
Le film, c'était Kedma.
Kedma. Et je me dis, mais c'est pas possible. Et puis, je le revois, ce jeune garçon, dans un film de Valérie Mreyen, Pork and Milk, sur des jeunes. Qui ont quitté l'orthodoxie juive. Et pour moi, je croyais qu'on croyait ou on croyait pas, que c'était aussi simple que ça, c'est allumé ou c'est éteint. Et tout d'un coup, j'ai réalisé que c'était beaucoup plus compliqué. Et il était là et il racontait qu'il était Nétoré Carta. Et pour moi, Nétoré Carta, c'était le diable, quoi. C'était
les... Donc c'est les juifs, c'est une communauté, c'est les plus orthodoxes, des ultra-orthodoxes.
Absolument.
En Israël. Juste le yiddish, pour resituer peut-être, pour certains de nos auditeurs qui ne connaîtraient pas, c'était la langue, enfin, c'est la langue parlée par les juifs d'Europe centrale et orientale. Et qui donc, avec beaucoup après la Shoah, pour beaucoup disparu, mais c'est aussi une langue qui est parlée donc dans cette communauté en Israël.
Alors moi j'avais un producteur à l'époque de Moi Yvan qui disait le yiddish c'est pas une langue morte, c'est la langue des morts. Et tout d'un coup de voir effectivement que c'était une langue aussi vivante, parce que les enfants jouent dans la rue en yiddish, ils ont 3 ans, ils ont 4 ans, en fait l'hébreu c'est une langue sacrée pour eux, donc on dit pas passe-moi le sel en hébreu, on le dit en yiddish. Et ils peuvent être mexicains, ils peuvent être du monde entier, ils apprennent le yiddish. Et du coup, à l'intérieur de cette communauté, qui est quand même très grande, parce que, en fait, c'est de Bnei Brak qui vient à Menachem, qui est à 20 minutes de Tel Aviv. Il y a 180 000 personnes dans cette ville. C'est la capitale mondiale de l'orthodoxie juive. C'est la ville des hommes en noir, des Haredim, c'est-à-dire des craignants Dieu, des tremblants devant Dieu. Et lui, c'est là qu'il a été élevé, et c'est là qu'il a chanté depuis l'enfance, parce qu'il a une voix magnifique. Et c'est là qu'il a eu tous ses problèmes avec des hommes qui l'ont abusé.
Et le film commence quand il explique en fait qu'il y a 10 ans, il a demandé des comptes à ce rabbin qu'il a harcelé sexuellement, qu'il a même violé, et il a enregistré. Et ce film est passé à la télé. Et pour lui, donc cet événement qui commence, qui a eu lieu en fait 10 ans. Avant le tournage, joue un rôle majeur dans votre film. Parce qu'il a, entre autres, été à l'origine de la rupture de Menahem, votre protagoniste, avec sa famille.
Absolument. Ça, il y a 10 ans, ça a fait un scandale. C'est passé, il a filmé avec une caméra cachée un de ses violeurs qui a tout avoué devant la caméra.
Et il l'a envoyé à la télé.
Il y a eu toute une émission de télé autour de lui. Et moi, j'ai, juste avant de le rencontrer, parce qu'en fait, j'ai voulu lui demander de jouer un rôle dans un autre film, et je le rencontrais pour ça. Et juste avant de le rencontrer, j'ai tapé son nom sur Internet, et là est apparu un blog sur les enfants qui ont été violés en milieu orthodoxe. Et il y avait cette séquence. Et donc, je croyais qu'il faisait un film, et je lui ai dit, voilà, peut-être je peux t'aider à trouver de la production en France. Et puis, je suis rentrée à Paris. Enfin, là, il m'a expliqué que non, il avait fait ça il y a 10 ans, qu'il avait tout arrêté parce qu'il avait eu peur. Et quand je suis rentrée à Paris, il n'a pas arrêté de m'appeler en me disant, faisons-le ce film. Et ça m'a paru impossible de ne pas le faire, en fait.
Il y a eu peur parce que c'est un système où, en fait, la victime du viol devient, tout est retourné, c'est-à-dire que il a reçu des menaces de mort, il a été, on peut le dire, complètement rejeté par son père et par sa mère. Il s'est retrouvé seul.
Il s'est retrouvé seul, mais comme beaucoup de gens qui ont été violés. Si vous avez vu Magdalena Sisters, c'est terrible, quoi. Être violé, être enfermé. Le viol, en fait, quand j'ai commencé ce film, j'avais l'intuition que les gens que je filmais allaient me révéler, me dévoiler une sorte de secret. Et moi, ce que j'ai compris pendant qu'on faisait tout ça, c'est que, voilà, le viol, ça a commencé il y a très 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 longtemps. Ça n'a pas commencé avec Weinstein. Et en fait, il y a une antériorité à tout ça, et que le plus grand crime autour du viol, c'est le silence. Parce que dans le silence, le viol se perpétue. Parce que 80% des violeurs ont été déviolés, et qu'ils n'ont jamais pu même se plaindre, parce qu'ils sont regardés d'une drôle de manière, parce que il y a une suspicion, parce que les familles ont honte d'avoir quelqu'un qui a été violé dans la famille. Et donc, plutôt que d'être du côté de celui qui a été agressé, ils sont du côté du silence, et c'est terrible. Et en fait, moi, les gens que je filmais, ils devenaient de plus en plus radieux, de plus en plus beaux, parce qu'ils étaient au centre de leurs blessures. Et comme on rentrait en plus à travers une blessure dans ce monde-là, moi, je pouvais aussi sortir tout mon amour de ce monde-là, et eux aussi, d'ailleurs. Puisque Menachem, au départ, il rentre à Bnei Brak avec nous dans une rage. Et au fur et à mesure que le film avance, il voit tout l'amour qu'il a pour ce monde, et il est capable de dissocier ce qui lui est arrivé et la corruption de ce qui lui est arrivé de ce monde en général.
C'est ça, c'est assez incroyable d'ailleurs que Menahem, il est à la fois rempli d'une sorte de rage lumineuse. C'est il est une sorte de mélange.
Complètement. Et c'est ça aussi le chemin du film. Le chemin du film, c'est la réparation, c'est comment vivre avec, beaucoup plus qu'une dénonciation. Ce film, il a été fait un peu de manière magique, un peu comme un rêve. Déjà, je suis une femme.
Vous avez pu introduire, c'est quand même un milieu très très fermé,
Des
ultra-orthodoxes.
Et pourtant, toutes les portes se sont ouvertes devant nous.
Vous n'avez pas filmé en caméra cachée?
Jamais, j'avais une grosse caméra, puis moi je déteste les caméras cachées. Et donc je dis toujours aux gens, si vous voulez regarder à l'intérieur de l'objectif, j'adore ça, vous regardez directement le spectateur. Donc j'ai jamais filmé avec une caméra cachée. Mais il y avait Menachem, d'ailleurs, c'est là où j'ai vu qu'il était toujours croyant. Un jour m'a dit, mais tu te rends pas compte, c'est Dieu qui veut qu'on fasse ce film. c'est vrai que les rencontres qu'on a fait étaient inouïes, parce qu'en plus, moi je viens de la pellicule, et donc j'ai toujours pris, enfin je ne filme pas énormément, j'ai pas 30 000 heures de rush, et donc par rapport aux personnages que vous voyez dans le film, il y a deux personnages qui ne sont pas là, mais tous sinon sont là, juste bien sûr il y a des scènes qui auraient pu être plus longues, mais voilà, on n'avait pas envie de faire un film beaucoup plus long que ça ne l'était, mais le oui, ça a été vraiment magique la façon, alors le yiddish a aidé beaucoup, Menachem bien sûr, c'est-à-dire que c'est un monde
qui est
très
charismatique lui quand même, hein.
Et puis il arrive et il se met à chanter. Et quand il se met à chanter, c'est comme si Mick Jagger revenait au village. Parce que c'est un monde sans télé, sans cinéma, sans théâtre. Le spectacle, c'est la rue et c'est la synagogue. Et quand quelqu'un se met à chanter, tout le monde se met autour et se met à chanter avec lui. Et même à danser.
Et ce film, il est extraordinaire parce qu'on dit toujours tel cinéaste, vous, Yolande Zoberman, fait un film sur un personnage, un protagoniste. Sauf que là, c'est une danse à deux. Vous parlez de cette scène inaugurale hein, sur la plage qui est extraordinaire. C'est vraiment une danse, à trois même, puisqu'il y a votre caméra entre vous deux. Comment vous l'avez approchée
Ma caméra, elle fait partie de moi. Et donc on était deux. En fait, cette nuit-là, Menachem ne voulait pas tourner. Il était très fatigué. Il me disait non, je ne vais pas tourner, je ne vais pas tourner. Et moi, je sentais qu'il fallait absolument qu'on tourne. Donc je lui ai dit écoute, on ne va pas à Bnei Brak, on va à Tel Aviv, puisqu'il vit à Tel Aviv maintenant. On va sur la plage. Donc il est arrivé, il n'était pas content. Il avait un t-shirt horrible. Et donc je lui ai dit enlève ton t-shirt. Et tout d'un coup, il se retrouve torse nu dans cette nuit chaude de Tel Aviv. Et on avance. Et en fait, il m'a balancé et la berceuse de mon enfance et son histoire à la gueule comme un combat de boxe, et moi je trouvais ça formidable parce que son histoire racontée dans la connivence aurait pu être complaisance, aurait pu être, alors que là c'est vraiment puissant quoi. Et en fait, lui et moi, on n'est pas rentrés du même pied dans le film et on s'est harmonisé de plus en plus et de plus en plus.
Et vous l'avez su tout de suite que ce serait un film de nuit?
Oui, parce que d'abord j'aime la nuit. Ensuite, la nuit, les gens prennent le temps. Et puis, c'est un monde, vous savez, c'est pas un monde bourgeois, c'est un monde assez rock'n'roll, mine de rien, parce que c'est un monde qui vit jour et nuit. Ils étudient le jour, ils étudient la nuit.
Vous voulez dire
nuit.
Cette communauté hassidique, ultra-orthodoxe de Tel Aviv?
Ils sont à 2h du matin, vont rencontrer des familles entières avec des enfants, comme on le voit dans le film d'ailleurs. Et vous savez même pas d'où ils sortent, mais c'est comme ça. Et il y a. Et le pacte entre nous, moi j'ai jamais voulu filmer des gens comme des victimes. Depuis mon premier film, je me suis juré de filmer les gens qui ont subi quelque chose comme des héros de leur propre vie. Et donc notre pacte entre nous, c'était celui-là, c'était de pouvoir parler de tout. C'était parler aussi du plaisir. Et Menachem a eu le courage et la beauté d'aller dans tous les lieux autour de sa blessure, sans jamais être dans l'anecdote, en fait.
À ce moment-là, il se passe quelque chose de quasiment miraculeux, c'est-à-dire, vous arrivez dans un cimetière, c'est la nuit, on ne sait pas si on est dans un documentaire, dans un film d'horreur, dans un conte de fées, hein, vous parliez tout à l'heure de magie, Yolande Zoberman, et tout à coup, il y a ces hommes qui arrivent, et effectivement, comme le disait Sophie, la parole est très très facile. La parole se libère très vite.
Alors, c'est un monde où tout est fermé ou tout est ouvert. Mais quand c'est ouvert, il n'y a pas de limite.
Mais pourquoi c'était ouvert pour vous deux?
Je sais pas. Moi, d'abord, je souriais tellement pendant. J'étais tellement heureuse de filmer là. Je me disais, mais quelle chance j'ai de. Moi qui ne suis pas religieuse, qui normalement devrait me rejeter à coups de chaussure, quoi. Et ils me laissent passer tous. Donc j'étais dans une espèce de joie miraculeuse. Et je pense qu'ils s'étaient attirés par cette joie. Et Menachem avait une énergie tellement solaire hein, que c'était. Et puis, les gens ont besoin de parler. Et moi, j'ai toujours vu ça depuis mon premier film. La caméra, c'est un objet antisocial. Les gens laissent tomber des faux semblants. Les gens ont besoin de s'ouvrir. Et ce qui a été extraordinaire pour eux de pouvoir parler entre eux. plusieurs personnes, qui, plusieurs garçons qui ont été violés et qui tout d'un coup échangent entre eux, racontent leurs doutes, leurs angoisses. On est effectivement dans un cimetière de nuit, on voit un homme jeune en caftan qui téléphone, on n'est pas encore habitué à être bien reçu, on se dit il va nous dénoncer, il va nous faire virer d'ici, et puis en fait non, il s'approche, il entend le yiddish et il dit qu'est-ce qui se passe, et on lui dit tu veux être filmé, il a dit d'accord. Mais pas le visage. Et en même temps, quand je demande aux gens à la fin du film, est-ce que vous avez l'impression que vous avez vu ce personnage, puisqu'on le suit, il est là parce qu'il va se marier et que toute son histoire est remontée, il a été violé par ses frères et beaux-frères, et il a peur de pas pouvoir être, de se marier, quoi. Et puis il connaît rien aux femmes, on s'en rend compte, il y a une scène assez drôle d'éducation sexuelle entre eux dans le film, et on le suit à son mariage, et on le suit à son divorce, et voilà, et donc le fait de pouvoir partager avec d'autres est formidable pour eux. Il y a quelque chose qui enfin peut se raconter.
C'est une religion, enfin en tout cas c'est une version de la religion qui réprime le corps, hein. Même des mariés, même la nuit de noces, ça doit être dans le noir, ils ne doivent pas se voir à peine, enfin en gros faire ce qui doit être fait pour faire des enfants. Mais c'est tout. Est-ce que ça peut expliquer cette sorte de systématisation, parce qu'effectivement il y a une systématisation de viol et de la pédophilie en fait.
Je crois pas tout à fait. Je crois que c'est vraiment la reproduction, que ces violeurs ont été violés eux-mêmes enfants et qu'ils reproduisent. Bien sûr, le fait de pas parler du corps, le fait de pas parler de sexualité doit encore plus augmenter cette espèce de capacité peut-être de passer à l'acte, mais je crois profondément que... On m'a demandé si dans la pédophilie, dans l'église, dans les synagogues, il y a quelque chose de Dieu là-dedans, et moi je vois pas de Dieu là-dedans, je vois que du silence et de la maladie. Et donc c'est... Et puis je voudrais juste dire une chose sur ce monde, c'est qu'ils étudient du matin au soir des choses, la Bible, et la Bible c'est violent. Comme Shakespeare. Shakespeare, c'est violent. Et nous, on vit dans un monde plutôt à la Walt Disney, malgré toute l'horreur qu'on a connue et qu'on connaît tous les jours au journal télévisé. On dit à nos enfants, tout va bien, tout ira bien et tout ça. Alors que eux, non. Du coup, ils sont en prise directe avec ce qui se passe. Du coup, quand Menachem raconte son histoire, soit il la partage, comme on le voit certaines fois dans le film, soit ils sont directement en train de répondre sans faux semblant. C'est ça aussi qui est sidérant. Ce qui est assez extraordinaire, cette parole libre quand elle sort enfin.
Et Menachem, d'ailleurs, il a peur lui-même, ou il en parle avec les autres, de ce qu'il appelle le cercle vicieux, ce que vous voulez dire, en fait, d'avoir été violé et à son tour de s'en prendre à des enfants. Et il rencontre aussi un homme qui en parle, qui lui a été pris dans ce qu'il appelle donc ce cercle vicieux, c'est-à-dire que lui-même a agressé un enfant et essaye de le briser la loi du silence. C'est aussi un moment incroyable.
Ben, c'est d'autant plus incroyable que cette rencontre a lieu dans la partie arabe de Tel Aviv. Les autres rencontres ont lieu à Bnei Brak, mais là, c'est la partie arabe. Donc c'est ce jour-là que Menachem m'a dit, c'est Dieu qui veut qu'on fasse ce film. Et c'est vrai que cet homme a été voir l'enfant, la famille de l'enfant. Il s'est fait soigner et il a été voir la famille de l'enfant pour que l'enfant ne vive pas le même secret que lui, pour que l'enfant n'ait pas honte, que c'est pas de sa faute à lui, pour briser ce cercle de la honte. Et d'une certaine manière, c'est le rêve du film, de briser ce cercle de la honte.
Est-ce que ça pourrait briser le cercle de la honte, ce film? Est-ce que c'est un débat en Israël?
C'est un débat en Israël comme partout, je pense, hein. Moi, je crois qu'on vit pas un moment pire, on vit un moment meilleur dans le monde, parce que c'est un moment où les histoires sortent. Et moi, je trouve qu'on vit de toute façon un moment terrible et passionnant. Et dans ce passionnant, il y a aussi le fait qu'il est temps d'élaborer une nouvelle éthique par rapport aux enfants. De la même manière que Jacques Demy chantait « Mon enfant n'épouse pas ses parents », il faut élaborer...
C'était déjà une série.
Là, c'est... On adulte, on touche pas aux enfants, quoi.
Mais tous ces foyers qui s'allument dans le monde entier pour dénoncer la pédophilie au sein du monde catholique, aujourd'hui votre film, Yolande Zoberman, vous pensez qu'on vit un moment de vérité ?
Ouais. Ouais, je pense qu'on vit un moment... Vous savez, je pense que, depuis que je suis enfant, je me dis pourquoi tant de haine ? Et dans ce film, j'ai trouvé une petite partie de la réponse. Parce qu'on vient d'un monde qui a été en partie violé. Parce que c'est comme ça depuis la nuit des temps. Et parce que ça change le rapport à l'obéissance, à l'autorité, à la politique, à la cruauté. et pas uniquement la sexualité. Et donc redresser ça, c'est redresser quelque chose d'important. Moi je suis, vous savez, ce qu'il y a de laid, depuis que je suis née, je m'y attends. Ce qu'il y a de beau me surprend. Et j'ai vu beaucoup plus de belles choses que je n'attendais. Et beaucoup plus de gens magnifiques se dresser que je n'attendais. Et donc, oui, je crois que c'est un moment de plus grande vérité.
Votre film sort quand à Tel Aviv et en Israël?
En juillet.
Vous aurez le cœur battant, vous,
bah ouais.
Vous et Menahem?
Ouais, Menahem peut-être même encore plus. Et parce que c'est un vrai courage d'apparaître comme ça, en fait, pour tous les gens qui sont dans le film, qui apparaissent tels qu'eux-mêmes. Mais je crois qu'ils ont fait ce film, effectivement, comme vous le disiez, pour pas devenir des violeurs, quoi.
Et pourquoi l'avoir intitulé M, donc comme M le maudit? Parce qu'il y a un aspect un peu expressionniste, un peu effrayant, parce que M le maudit, c'est aussi une histoire de pédophilie.
Enfin, oui, bien sûr. Et puis M le maudit, c'est un film très fondateur pour moi. C'est un film que j'arrivais pas à voir en entier. J'ai mis des années avant de pouvoir dépasser les premières séquences, tellement ça me faisait peur. Et puis M comme le monde et M comme effectivement Menachem, en plus qui s'appelle Lang comme Fritz Lang. Donc oui, M. En plus, c'est une belle lettre M. C'est mother, c'est maman, c'est la lettre du milieu de l'alphabet, c'est une lettre double. Paradoxal et en même temps très équilibré, bien ancré entre le ciel et la terre.
Merci beaucoup, c'est un bon mot de la fin. Merci Yolande Zoberman. Votre film M est sorti en France ce mercredi, sortira bientôt en juillet à Tel Aviv. Et puis tous ceux qui voudront lire sur l'histoire de Menahem Lang pourront découvrir ce livre. Donc c'est aux éditions du Seuil. C'est Sophie Torlotin qui me l'a glissé. C'est signé Selim Nassib et Yolande Zoberman. Voilà, et c'est, je le disais, aux éditions du Seuil. Tous les cinémas du monde ont fait une petite pause musicale avec la BO de La Flore de Mariano Linas. Restez avec nous dans quelques minutes. On parlera de ce projet pharaonique. 10 ans de tournage pour un film de 14 heures qui nous fait traverser tous les genres, l'horreur, la science-fiction, le film d'espionnage et même la telenovela. Voilà, rendez-vous dans quelques minutes avec son réalisateur Mariano Linas.
Quiero subir al cielo una noche de estas, que recorramos juntos todas las estrellas, visitar la galaxia, tu mano en la mía, sin pasado y futuro, sin noche ni día. Quiero dejar atrás mi vida aquí en la tierra, que nos perdamos juntos en algún planeta, ver el sol ocultarse detrás de Saturno, todo eso y mucho más, y que lo hagamos juntos en algún lugar del espacio astral, volar junto a ti, sentirme feliz, la estrella polar. Imagínate, amor, qué hermosa fantasía, el cosmos hecho jardín lleno de alegría, la Vía Láctea pintada de todos colores, los astros brillarán como si fueran flores. Quiero cantar contigo miles de
Vous êtes bien sur RFI dans tous les cinémas du monde où vient de nous rejoindre notre invité Marianne Olinas. Bonjour.
Bonjour.
C'est rare, hein, pour ne pas dire unique, hein, de voir un film comme le vôtre, un film qui est unique autant par sa durée que par l'étendue des lieux et des thèmes, des territoires du cinéma qu'il explore. 14 heures à la poursuite de quatre héroïnes qui se passent le relais d'histoire en histoire, un peu comme dans un feuilleton de Louis Feuillade ou dans un film de Jacques Rivette. Est-ce qu'au début, Marianne Olinas, au tout début, vous saviez déjà que ça durerait
peut-être pas
14 heures, mais en tout cas que ce serait un film au long cours?
Je suis pas si fou, je suis pas un dictateur, je suis pas un sadiste.
Un sadique, non.
Non. Je savais que on était devant un grand objet. Un objet que pouvait être irrégulier dans son forme. Mais j'avais jamais pensé de 14 heures. 14 heures, c'est trop, évidemment. Mais vous savez, j'avais fait d'abord un film qui s'appelait Histoire extraordinaire, que vous avez entendu, petit. Pas petit, mais petit, comparé à cette...
C'était 5 heures, cette, c'est ça?
Oui, non, 4 heures. Mais dans ces temps, tout le monde parlait de ce, parlait les mêmes choses. Un film extraordinairement grand, un film géant, un film fleuve, tout le monde parlait les mêmes choses qu'on parle de la flore. Alors, la seule chose que je voulais, c'était pas faire un film de 4 heures. Et tout le monde voulait la même chose. Non, non,
donc
si vous
quoi,
va faire un film...
C'était 14 minutes ou 14 heures?
Alors, claro, c'est ça. Alors, je voulais faire un film plus court. Et j'ai pas réussi, alors je fais un film de 14 heures. C'est pas 4 heures. Quand j'ai découvert que le film, ça serait plus long que 4 heures, je dis, alors c'est ça, notre destin. Notre destin, le destin de la grandeur, au moins. la longitude, comment vous dites la longitude, les longueurs,
la
c'est
longueur.
Vrai, la longueur de film, oui, c'est pas, c'est, ça, je fais pas de petits objets, vous savez, c'est comme ça. Peut-être maintenant, c'est le moment de devenir un peu plus
miniaturiste.
Oui, miniaturiste.
Marianne Olinas, c'est difficile hein, de raconter la flore. On pourrait dire que c'est un feuilleton qui nous ramène au début du cinéma, au plaisir de raconter, d'être émerveillé par des histoires qui se suivent sans se ressembler. Il y a une momie qui se réveille et qui retrouve son aura maléfique. Il y a un scorpion qui donne des super pouvoirs. Une jeune fille un peu godiche, un peu timide, hein, qui va devenir la reine de l'espionnage dans l'Angleterre de Thatcher. Une autre qui est guerriera, qui se fait retourner par des agents de la CIA. Alors, au cœur de tous ces films, il y a surtout quatre actrices formidables.
Évidemment.
Alors,
oui.
Je vais essayer de dire leur nom. Elisa Caricaro, Valeria Correa.
Valeria Correa, Pilar Gamboa y mi compañera.
Et Laura Paredes.
Laura Paredes.
Et ces quatre actrices
c'est la mère de mon fils
de théâtre. Oui. C'est votre
elle
compagne.
Elle a fait encore cette petit rôle dans la vie, d'être la mère de mon petit-fils. Mais oui, ils font partie de... Son propre groupe, que c'est un groupe qui, maintenant, à Buenos Aires, est devenu un groupe important, parce qu'ils sont en train de faire sa pièce qui s'appelle Petrolio.
Et vous les avez rencontrés
je dirais, en 2006. J'ai vu une pièce jouée par ce groupe dont je vous parle et je suis resté complètement fasciné pour sa habileté vers la fiction. J'ai compris ça.
Donc vous voyez cette quatre comédiennes il y a plus de 10 ans et vous vous dites j'ai envie de faire une aventure cinématographique avec ces quatre et du coup vous avez écrit des histoires différentes dans des genres cinématographiques totalement différents pour ces quatre mêmes actrices.
Évidemment, oui, pour trouver ses limites, on peut dire, pour trouver jusqu'à quel point elles pouvaient arriver avec la fiction, avec les jeux, que c'est la même chose.
Donc, il y a une histoire d'espionnage, vous en avez parlé, mais il y a aussi une comédie musicale, il y a
un
film de série B.
Peut-être une tragédie musicale.
Une tragédie musicale, un film de série B. Qu'est-ce qui est venu en premier, en fait? Vous avez écrit une histoire?
Non, j'avais, par exemple, parce que je vous ai entendu en parlant du récit, de la momie, et je crois que nos auditeurs peut penser que c'est quelque chose pour des enfants, c'est quelque chose...
Ça, c'est le premier épisode de la partie 1.
Oui, mais des scorpions, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de Harry Potter, de momie et scorpion, c'est quelque chose pour des enfants, et je crois que oui, il devait porter ses enfants. Mais je crois que les histoires sont pas les buts, mais sont le moyen pour montrer notre fille. Je crois que c'est cette façon de faire cinéma, c'est opposé à la façon qu'on est accostumé, que c'est que les comédiennes, ils sont le moyen pour le récit. Je crois que c'est différent ici, que le récit, c'est le moyen pour montrer quatre femmes.
Et ce qu'on n'a pas dit, Mariano Linas, c'est que la Flore, vous l'avez commencé il y a 10 ans. C'est ça, à peu près.
Le premier jour de tournage a été le 5 septembre 2009. Et
10 ans, donc.
Oui. Maintenant, il fait 10 ans. Mais et la dernière image, on l'a fait il y a un an avant la présentation du film à Buenos Aires. Alors, 9 ans. Mais si on pense que le film a continué à se faire... dans le procès de le montrer, je crois que oui, 110 ans. Et je crois ça, je crois que le film a changé depuis sa sortie, par exemple ici en France. Le film continue. Hier, on parlait avec les spectateurs, je les ai demandé, est-ce que vous croyez que vous êtes auteur de ce film aussi, en restant tous ces temps? Et ils ont dit, oui, je me sens parti, je sens que je suis parti de ce procès, et je crois qu'ils ont raison, et c'est vrai. Qu'est-ce que vous pensez? Vous avez vu le film? Vous
forcément le film. Alors, oui. Le film, il faut le redire, c'est 6 histoires différentes.
Oui. Oui,
mais il y a un petit prologue où on vous voit d'ailleurs.
Dans ces histoires, il y a des autres.
Et en plus, ce sont effectivement d'autres histoires. Donc effectivement, ça travaille aussi chez le spectateur pendant et puis après.
Oui.
Et la première histoire que vous avez tournée, c'est la première que l'on voit, donc celle dont parlait Elisabeth, celle de la momie, ce film un peu fantastique. C'est comme ça que ça s'est passé?
Oui, tout ça. Oui, parce que la chose la plus importante, c'était de trouver, de faire 4 portraits, vous savez. Je compris ça au début du film, que c'était pas que de raconter des histoires, mais de faire les portraits de 4 femmes.
Llueve en la ciudad vacía, por las calles desiertas se aleja nuestra vida. Llueve, tú estás aquí a mi lado, como si no estuvieras, casi como un extraño. Miran tus ojos solitarios, miran al infinito y yo te estoy mirando. A un hombre derrotado, alguien que no conozco, que no es el hombre que amo. Somos no más que un par de sombras, apenas 2 fantasmas, se acaba nuestra historia. Y me digo, esto no es suficiente, así no se despide un corazón valiente.
Voilà la magnifique BO de votre film, Mariano Linas. C'est, oui. C'est la deuxième histoire. Un couple de chanteurs se sépare dans le sang. Et je vous voyais jouer, chanter. Vous êtes comment sur le plateau? Vous jouez tous les rôles ou vous êtes quel genre de directeur, d'actrice?
Nous ne sommes pas beaucoup. Vous savez, ce film est fait avec pas beaucoup d'argent, parce que je fais partie d'un groupe de cinéastes là-bas en Argentine, en Buenos Aires, et on veut travailler d'une façon coopérative.
Un collectif, on peut dire son nom, El Pampero.
Oui, maintenant on dit collectif, mais vous savez, chez nous, cette mot a ses problématiques, parce que chez nous, collectif sont des grands autobus qui vont par la rue. Alors un collectif, il y a un significat un peu différent, vous savez. Un collectif, ce sont les collectiveros. Nous avons les collectiveros qui sont ceux qui vont alors tout le temps fâchés. Alors peut-être je suis le collectivero de notre collectif. Non, mais je parlerai mieux d'un un groupe comme on parle d'un groupe de rock and roll. C'est comme ça. Et chacun de nous peut jouer le rôle des autres. C'est quelque chose, oui, c'est collectif, mais c'est très horizontal aussi. Ouais, le collectif, c'est horizontal. Oui, j'aime pas le mot collectif. Peut-être parce que tout le monde parle de soi-même d'une façon collective, et je crois que c'est pas la même chose qu'on fait, la chose qu'on pense sur le cinéma, et parce que on veut trouver une autre façon de faire de film, que c'est une façon que va contre l'industrie. Nous sommes contre l'industrie. C'est pas que nous détestons l'industrie, peut-être, mais c'est que on veut chercher une façon moins hiérarchique, je ne sais pas si vous avez
hiérarchique.
Ça, oui, hiérarchique, moins de patrons et employés, que je crois que ça, on a beaucoup dans le métier cinématographique. Et alors, nous ne sommes pas beaucoup, au moment du tournage, oui, je suis pas un petit agneau. On peut dire ça. Je crie. Vous avez vu le moment.
L'histoire de la crise.
Où on montre,
voilà,
oui. Je suis
sur
comme ça, je suis comme ça.
Ah, oui. Vous êtes un peu un dictateur sur le plateau?
Oui, un dictateur pas si. Je suis un dictateur que personne n'obéille, je dirais.
Mais alors, justement, ces actrices, parce que je voudrais qu'on parle spécifiquement de cette chanson, parce qu'elle est merveilleuse. Et pourquoi elle est merveilleuse? Déjà, cette version, elle est chantée par Pilar Gamboa.
C'est pas chantée par Pilar Gamboa, mais il faut croire que c'était...
Voilà, elle est doublée, chantée. Mais on va l'entendre chanter sous toutes ses formes, parce qu'ensuite, on l'a pas entendue, mais elle est aussi reprise par son compagnon, hein, puisque c'est une scène de ménage. Elle va être chantée de façon très romantique, ou alors mélancolique, ou bien enragée, ou bien très triste. Il y a un vrai plaisir de la répétition.
Ah.
Ouais. Dans votre film.
Oui,
c'est quelque chose qui est proche de vous.
Oui, pensez, nous avons un grand objet de 14 heures. Il faut faire tout. Il faut essayer tous les trucs possibles, tous les ruses possibles pour captiver l'attention de tous. Oui, on a besoin de beaucoup de ces petits trucs.
De ces petits motifs. Mais justement, là, la répétition, elle n'est jamais la même. Parce que justement, les voix ont changé.
Héraclite, c'est la doctrine héraclitienne. Oui,
et ça fait toujours, ça fait vraiment partie de l'immense plaisir qu'on éprouve à voir votre film.
Oui.
Ce qu'on n'a pas dit non plus, c'est que, mais c'est assez logique, dans la mesure où vous avez tourné sur 10 ans.
On pouvait parler d'un jeu d'équilibre entre les variations et la répétition. Oui.
Et c'est justement visages. Parce qu'elles changent, on voit leur visage, le temps qui passe sur leur visage. Parfois, on en voit une dans une histoire qui est un petit peu plus fatiguée.
Oui.
On voit aussi leur grossesse, parce que leur corps.
Oui, parce qu'ils sont enceintes. Oui.
Du film, il y a quelque chose de magique.
J'espère qu'elles n'écoutent pas cette définition que vous avez faite de qu'elle est engrossive. Ils vont détester, ils sont été très coquettes, vous savez.
Marianne Olinas, vous parliez tout à l'heure de votre souci de ne pas ennuyer le spectateur, de chercher des variations, de jouer aussi, évidemment, avec votre quatre actrices. C'est intéressant, évidemment, la durée au cinéma, la durée de l'œuvre, hein, 14 heures, la durée du tournage, hein, 10 ans. Est-ce que, aussi, il y a un jeu avec le fait que les spectateurs, maintenant, ils sont habitués à la durée avec toutes les séries télévisées, on parle d'âge d'or, hein.
Oui.
Est-ce que c'était aussi une manière de dire, regardez ce que peut le cinéma, ce que doit le cinéma, et enfin, je ne sais pas si on peut parler de supériorité du cinéma, mais en tout cas, ce jeu...
Vous savez, j'ai compris ça au moment de sortir, au moment de finir le film et de le montrer. On n'a pas pensé à la télé pendant les années qu'on a utilisé en faisant le film. La télé, c'était quelque chose qu'on considérait pas. Et il y a quelque chose d'intérêt, je crois, parce que quand on a commencé à faire le film, cette grande compagnie qui maintenant c'est en boca de todo, dans la bouche de tous, qui commence avec la haine et qui finissent avec la ex, ça n'existait pas.
Netflix, donc.
Oui, c'est ça. Mais tout le monde était terrifié de que c'est une autre chose qui aura dominé le monde, que c'était Facebook. Tout le monde parlait, il fait faire quelque chose contre Facebook qui va dominer le monde. Et maintenant, personne pense que Facebook va dominer le monde, mais tout le monde pense que Netflix va dominer le monde. Alors, je crois qu'on a commencé dans un temps où Netflix n'existait pas, et Netflix peut quitter d'être là comme cette menace. Je crois que on fait du cinéma, et le cinéma reste. Je crois ça. Mais je crois que si, qu'il y a quelque chose à dire, que cet enthousiasme des gens vers notre film, a un rapport avec une sorte de sensation de vengeance contre la télé. Et je crois que c'est bien. Que ceux qui sont allés au cinéma à rester 14 heures sont ceux qui veulent quelques manifestations, grandes manifestations du cinéma contre la télé. Je crois ça. Alors, je suis un peu, j'occupe cette place avec plaisir. Oui. Parce que j'aime pas la télé.
Mariano, tout à l'heure, vous parliez justement de la durée telle qu'elle est vécue, éprouvée par les spectateurs. C'est vrai que c'est un peu, voir votre film, c'est un peu comme voir un film de Lav Dias ou voir un film de Jacques Rivette. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on ne voit plus le film, on vit dans le film. Vous, comment vous l'avez vécu? Je ne parle pas seulement du tournage, mais comment vous êtes sorti de ce film? Est-ce qu'on peut en sortir?
Je sais pas. J'espère, oui. Non, mais vous savez, parce que le travail de montrer le film, le métier de montrer le film, c'est pas plus facile que le faire. Vous savez, montrer le film, c'est quelque chose qu'on découvre des aspects inconnus sur notre film. Et spécialement, cette film, chez nous, quelques grands objets de 14 heures. Alors, je crois que par exemple que il y a quelque chose, vous parlez de Lav Dias, vous parlez de Rivette, qu'ils ont fait aussi de longs films. Et long film, c'est en anglais, non? C'est des films longs. Alors, mais chez nous, il y a quelque chose de différent, je crois, parce que notre film est montré en des jours différents.
Il est montré en quatre parties en France.
En quatre parties et quatre jours. Vous pouvez aller 5 jours, vous pouvez tourner à voir. Mais la façon de le voir, c'est aller 4 fois au cinéma. Et peut-être, par exemple, quand on le montre ailleurs, parfois on le montre 3 jours, un jour après l'autre, il y a des rapports, il y a des relations, il y a des amitiés que le film fait. Vous savez, vous êtes allé au cinéma et vous connaissez quelqu'un, et après aux intervalles vous parlez avec les mêmes gens, et alors je crois que le film peut créer ses amitiés et ses amours aussi, ses relations amoureuses, parce que on se connaît dans les intervalles du film. Et ça, c'est très intéressant, je crois. Peut-être on parlait que depuis 20 ans, il y aura beaucoup de petites filles qui s'appelleront Flora. Flora ou quelque chose comme ça, parce qu'ils sont conçus pendant les entractes de la flore, si. Alors je crois que ça c'est intéressant, l'objet, parce que il continue à faire ses fictions hors de la projection, hors de la salle.
Le film continue d'exister et de vivre
je
en
crois
nous
ça.
Au-delà
crois ça.
Des
oui.
projections.
Je crois ça. Je crois ça. Dans ma propre expérience, c'est comme ça, oui.
Merci beaucoup, Mariano Linas.
Merci à vous.
On se quitte en musique avec une autre sublime chanson du film.
C'est quoi?
Como la hiedra.
Ah,
comment ça se traduit?
Oui,
comme le lierre.
Oui, hier, je sais pas comme c'est cette
plante qui s'enroule autour des arbres.
C'est dédié à tous les comme le lierre. C'est dédié à tous les lierres que nous avons chez nous.
La flore Marianne Olinas, la flore de Marianne Olinas est dans toutes les salles françaises depuis le 6 mars. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin
et Elisabeth Le Quéré, à la réalisation Fanny Renard.
Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même cinéma, avec le film qui a gagné l'Ours d'Or, la plus haute récompense du Festival de Berlin. C'était en février dernier, j'ai nommé Synonyme de Nadav Lapid.
Como la sombra que haga lo que haga viene tras de mí. Y que en minutos cuando caiga el sol desaparecerá. O como el loco aquel al que le presta su corona el rey, y que no sabe que la lleva solo para hacer reír. Como una copia triste y olvidada al fondo de un bazar, que alguna vez hizo algún mal pintor de otro cuadro inmortal. Como una mala falsificación, como un parásito, desprecian los demás. Como la hiedra eres para mí, bebes mi savia para no morir. Por algún muro lograrás trepar, pero aún así nunca florecerás. Siempre quisiste parecerte a mí, ser como yo y ocupar mi lugar. ¿Qué lograste con tanta ambición? Vivir apenas en esta canción. Oh,